Donc moi c'est Hélène, je suis membre de l'Observatoire des pratiques policières de Lille depuis la création en fait de l'Observatoire, donc en printemps dernier. Je suis à côté de ça doctorante à l'Université de Lille en sciences politiques.
Comment c'est né alors cet observatoire lillois des pratiques policières ?
Alors en fait c'est né suite à un constat donc qui est arrivé depuis 2016, hein, depuis la loi ORE et depuis les mobilisations contre la loi ORE. Il y avait un ensemble de pratiques policières assez abusives et qui débouchaient notamment sur des violences policières. Donc c'est particulièrement aussi avec le mouvement des Gilets jaunes, hein, qu'on a vu réapparaître en fait ces violences policières dans le cadre de manifestations.
Quand tu parles de pratiques policières, ça peut être l'usage de la force, mais aussi des choses de type l'immatriculation, parce que les policiers sont censés avoir une plaque ou quelque chose qui les identifie, ce genre de choses.
Bio, ouais. Oui, alors en fait, c'est vrai que c'est quand même assez large, pratique policière. Hein. C'est pas que le fait, la violence, c'est un peu l'aboutissement, c'est ce qu'on voit en général, c'est le plus visible. Mais il y a aussi, par exemple, le dispositif policier, l'ampleur du dispositif policier qui est très important à prendre en compte, parce que là, sur l'île, par exemple, on se rend compte que il y a certaines manifestations, il y a beaucoup plus de policiers que de manifestants, donc rien que rendre compte de l'ampleur de ce dispositif, c'est quand même assez important et ça permet de dénoter un peu le climat actuel. Après, oui, en effet, il y a toutes ces choses-là, par exemple le port du RIO, donc c'est une sorte d'immatriculation du policier qui est très rare au final. On se rend compte qu'il y a très très peu de policiers qui le portent. Il y a aussi le fait de porter la cagoule. Bon, apparemment maintenant c'est autorisé, mais c'est quand même une forme de technique d'intimidation, le port de la cagoule, le comportement du policier. Donc ouais, c'est un ensemble de choses qu'on prend en compte. C'est pas juste la finalité qui est la violence policière, c'est vraiment tout un climat général qui est propre au dispositif policier à Lille, mais aussi au niveau national.
Alors cet observatoire, il sert à quoi? Donc à observer, mais aussi à dénoncer, à défendre des gens qui ont eu affaire, qui ont été confrontés aux violences policières.
Alors oui, l'idée c'est de dénoncer en effet. Alors déjà peut-être d'interpeller l'opinion publique. Bon, c'est déjà en partie bien fait par d'autres médias. Mais oui, interpeller l'opinion publique, mais aussi bien sûr les institutions, pouvoir fournir un rapport en fait qui apporte un gage de sérieux et enfin vis-à-vis de notre travail qui va se faire sur le long terme, mais aussi parce qu'on on fait une observation très minutieuse, on s'appuie beaucoup sur des techniques de sciences sociales, donc on essaie d'être très rigoureux en fait sur notre travail pour qu'on puisse pas décrédibiliser quoi, mais l'idée c'est vraiment de faire un rapport qui pourrait en fait dénoncer les violences policières, mais aussi l'ampleur du dispositif policier qui est très souvent disproportionné. Après, oui, en effet, avec la prise d'image et de vidéo, l'idée c'est également de pouvoir soutenir des manifestants ou des manifestantes qui auraient subi des violences policières injustement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de justification des violences policières, mais ce serait également de pouvoir aider des personnes qui se retrouveraient à un procès. Enfin, là, on l'a vu récemment à Paris, par exemple. Je crois que c'était pas à Paris, c'était à Bordeaux, je crois. Le jeune homme qui s'est tapé alors qu'il a rien fait et il a un procès à côté de ça. Bon, voilà, l'idée, c'est d'aussi montrer que nous, on peut être une ressource pour les manifestants et les manifestantes qui subiraient des violences injustement et qui, en plus, seraient réprimées par derrière, quoi.
Ressources aussi en termes juridiques, il y a comme une legal team, enfin des gens qui sont prêts à défendre dans votre collectif des gens victimes.
Nous on n'est pas la legal team, mais c'est vrai que on est plus ou moins proche dans l'idée de la legal team, hein, parce que oui, en effet, l'idée c'est plus d'être même si on adopte une position de neutralité, c'est quand même l'idée de plus aider les manifestants et les manifestantes, d'être une ressource pour les manifestants et les manifestantes, dans le sens où, en fait, les services de police disposent déjà d'un ensemble de moyens, de ressources d'information pour se renseigner sur les manifestants et sur les différents groupes qu'il y a dans les manifestations. Donc nous, oui, en effet, on est plus là pour apporter une ressource aux manifestants, mais après, nous, on n'aura pas le même rôle que la Legal Team, quoi. C'est pas exactement la même chose.
Alors, qui compose votre observatoire? C'est des gens qui sont dans la recherche en sciences sociales ou d'autres personnes, des syndicalistes?
Alors, on a, en fait, c'est notre, donc, c'est l'Observatoire, c'est un collectif qui réunit plusieurs syndicats. Donc, il y a la LDH, la Ligue des droits de l'homme, de Lille. On a des syndicats comme Sud Solidarité. On a le SAF aussi, le syndicat des avocats de France, qui nous suit. Donc, voilà, donc, il y a plusieurs, il y a aussi plusieurs branches de Sud Solidarité qui nous suivent et qui nous aident, qui nous fournissent des ressources financières. Donc, au niveau des observateurs observatrices, on est plusieurs universitaires. Après, le laboratoire auquel on est rattaché ne fait pas, enfin, ne soutient pas l'observatoire directement, si vous voulez. Enfin, non, mais c'est une initiative individuelle. Elle vient pas du laboratoire, elle vient de nous-mêmes. Donc, oui, on a un bagage sociologique. Donc, c'est vrai que c'était intéressant dans le sens où, en fait, on connaît la pratique de l'observation, on sait comment ça se passe, on arrive à récolter des données et à les analyser. Donc, ça va être aussi un point important pour la constitution du rapport. Mais après, il faut savoir que l'observation en elle-même, on n'a pas besoin d'être un universitaire ou même d'avoir fait des études, quoi. C'est quelque chose qui s'apprend très rapidement. Et l'idée, oui, c'est nous plus de justement former les personnes intéressées. Faire des observations, les former en fait à la pratique de l'observation, parce que justement on est assez habitué à ces techniques-là dans notre travail.
Alors, un des outils de l'observation, c'est la prise de photos, j'imagine. Il y a pas mal de gens qui s'interrogent sur est-ce qu'on a le droit de prendre des photos de policiers dans des manifestations si on voit quelque chose. Et on voit aussi que c'est un enjeu, hein, parce qu'on a eu aussi des témoignages de personnes qui disaient que les policiers s'emparaient ou empêchaient les gens de prendre des photos, détruisaient parfois des téléphones portables, des smartphones, des choses comme ça.
Oui, bah alors là, oui, en effet, c'est un problème qui se pose constamment, en fait, là, parce que, donc, sur le matériel, quand on a des discussions autour du matériel, c'est vrai que l'idée, c'est quand même que ce soit les organisations qui nous soutiennent, nous fournissent ce matériel, parce que c'est évident qu'un jour, notre activité va commencer à déranger. Et oui, en effet, il y a ce risque-là de se faire détruire notre matériel, c'est sûr. Mais en attendant, on est suivi quand même par des avocats qui connaissent la loi et qui pourront nous protéger là-dessus. Après, j'aimerais préciser juste quelque chose. Ça va un peu à côté de votre question, mais en fait, nous, l'ensemble des photos et des vidéos qu'on prend, enfin tous les supports visuels qu'on collecte, en fait, ils sont pas destinés à être diffusés. Ou alors, s'ils le sont, ce sera à travers le rapport et nous veillerons à ce que vraiment toutes les personnes, que ce soit des policiers ou des manifestants, ne soient pas nécessaires, enfin ne soient pas identifiables. Donc peut-être qu'à la limite, ce genre d'information peut nous protéger, mais oui, en effet, c'est un risque qu'on court et que d'autres observatoires, à Toulouse et Montpellier notamment, ont déjà subi les violences de la part des forces de l'ordre, ont déjà eu du matériel supprimé ou cassé.
Alors, normalement, le rôle là, que vous décrivez, c'est un peu la police des polices qui doit le faire, qui doit surveiller aussi les policiers et intervenir s'il y a un problème. Cette police des polices ne remplit pas son rôle correctement, selon vous?
Ah bah non, 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 on le voit bien. Déjà, elle n'est pas là dans les manifestations pour observer les pratiques policières. Et puis bon, comment est-ce que l'IGPN pourrait être performante alors qu'elle est dépendante du même ministère? Enfin, il y a un problème de conflit d'intérêts. Donc non, enfin pour nous, c'est une vaste blague. L'IGPN est une vaste blague et tant qu'il n'y aura pas une vraie instance capable de contrôler et de sanctionner, hein, parce que la sanction, on l'a jamais vu apparaître ces derniers temps, donc de contrôler et de sanctionner, ben, c'est important que des collectifs de citoyens se forment et fassent le travail que l'État n'est pas capable de faire.
On est toujours par téléphone avec Hélène de l'Observatoire Lillois des pratiques policières. Alors, est-ce que votre action se limite aux manifestations ou est-ce que vous avez aussi comme objectif d'observer les pratiques policières dans les quartiers populaires, par exemple, où on sait qu'il y a aussi des tensions entre police et groupes de jeunes, par exemple?
Bah alors, nous, on sait très très bien que voilà, les violences policières, elles sont pas apparues que dans les manifestations, que c'est quelque chose qui existe dans les quartiers populaires depuis très très longtemps. Après, c'est vrai qu'on est un petit observatoire, donc on n'a pas, en termes de moyens humains et même financiers, on n'a pas les capacités d'étendre notre action jusqu'au quartier populaire. Mais après, c'est vrai qu'à terme, ça pourrait être quelque chose qui nous plairait de faire ça, sachant qu'il y a quelques collectifs, quelques associations qui sont présents dans ces quartiers et avec qui on pourrait de qui on pourrait se rapprocher et avec qui on pourrait organiser des actions d'observation. En effet, enfin, c'est quelque chose qui pourrait se faire dans un plus ou moins long terme, mais là, pour l'instant, on n'a pas les capacités de le faire. Mais oui, c'est pourquoi pas. Enfin, on n'est pas du tout fermé à cette idée-là.
Il y a des gens pour l'instant qui ont fait appel à vous, qui vous ont envoyé des témoignages, des choses comme ça, qui vous ont fait part de violences policières?
Alors pour l'instant, ça s'est fait, ça se fait un petit peu, mais ça reste. Alors notamment au niveau des mobilisations lycéennes, il y a pas mal de lycéens qui sont venus vers nous parce qu'on a beaucoup tracté. En fait, on a un problème de visibilité, hein, c'est normal, hein, on est encore tout jeune. Donc les gens ne nous identifient pas forcément, ne pensent pas forcément à nous tout de suite. Mais oui, ça se fait de petit à petit, ça commence à se faire et c'est bien parce qu'on commence à avoir une visibilité de plus en plus forte. C'était notamment aussi l'idée du débat du 6 février, là, c'était aussi de faire une action où les gens pouvaient nous repérer et comprendre qui on était, donc oui, ça commence à venir.
Oui, tu parles d'un débat qui s'est passé à la Bourse du Travail avec plusieurs invités, le journaliste David Dufresne, Yann B. du collectif Désarmons-les. Il y a été question lors de ce débat, où il y avait beaucoup de monde dans la salle, d'une systématisation des violences policières ces dernières années. Hein, des violences policières, on sait, qui sont récurrentes depuis de nombreuses années dans les quartiers populaires, mais qui ont touché aussi d'autres tranches de la société française. Comment tu vois cette systématisation? Comment, bien sûr, il y a plusieurs explications sans doute, mais comment tu expliques cela, toi?
Je pense que c'est principalement dû à des choix politiques, hein. C'est des choix politiques qui sont au niveau national. Je pense que par exemple, le terme de bavure policière, il a plus son sens actuellement parce qu'en effet, c'est quelque chose qui devient systématique et propre à l'institution policière. Hein. Je pense que vraiment, c'est maintenant les violences et le fait d'être dans des pratiques d'intimidation, etc. C'est propre au processus de professionnalisation au niveau policier, hein, au niveau de l'institution policière. Donc, je pense que oui, c'est des choix politiques. Après. Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'on est dans un État qui se durcit. Hein. On est aussi dans un contexte où assez difficile. Donc oui, je pense que avec les mobilisations sociales, on est face à un État qui se renforce, un État régalien qui cherche à se renforcer. Et je suis pas spécialiste non plus, mais moi je le vois comme ça en tout cas.
Quand on écoute un peu le discours à la tête de l'État, ils disent y a de la violence dans la société, il y a de la violence dans les manifestations, et notamment de la part des manifestants, et c'est ça qui implique, qui demande une réponse appropriée. Comment tu vois cet argument-là, toi?
Bon, moi, je vais parler à notre niveau, hein, au niveau de nos observations, ce qu'on a pu observer sur l'île en un an. Déjà, on se rend compte que il y a une présence policière anxiogène, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des manifestations où on ne peut pas voir un espace sans un policier, sans un membre des forces de l'ordre, cagoulé, casqué, suréquipé, avec des comportements extrêmement agressifs. Donc, je peux m'avancer pour dire que la violence, elle provient d'eux en premier. Et que dans les manifestations, il y a vraiment un climat anxiogène avec des forces de l'ordre omniprésentes. Donc, sincèrement, parler de la violence des manifestants, je trouve ça complètement inapproprié quand on se retrouve face à une armée. On peut vraiment parler d'une armée, hein, de soldats suréquipés, énervés. Enfin bon, moi, j'ai pas du tout envie de parler de la violence des manifestants parce que selon moi, elle n'existe pas. Hein. Le gouvernement aime bien dire que la violence policière n'existe pas, moi je vais répliquer en disant que la violence manifestante n'existe pas. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est de la communication, c'est des arguments inventés. Enfin, la violence, elle provient de l'État avant tout, et ça, on voit en manifestation, c'est évident que plus la présence policière est visible, et plus il y a des tensions dans les manifestations, hein, ça crée de la peur, ça crée de l'anxiété, puis ça crée de la colère aussi, hein, parce que quand on est dans un cortège avec des enfants, avec des gens calmes qui manifestent et qui se retrouvent à se faire gazer pour on ne sait quelle raison, bah là, la violence, elle provient pas des manifestants, elle provient vraiment de l'État, elle provient des policiers, quoi. Donc moi, j'ai pas du tout envie de débattre ou de parler des violences de la part des manifestants.
Tu as parlé de l'équipement. Il y a pas mal de discussions, de débats aussi sur l'équipement des policiers. Il y a des collectifs qui militent aussi pour l'interdiction de certains équipements. Bon, on a parlé de LBD, mais aussi d'autres armes.
Oui.
Est-ce que l'Observatoire Lillois des pratiques policières a une position là-dessus ou une réflexion là-dessus?
Comment dire, nous, non, pas vraiment, enfin, on n'a pas vraiment évoqué ça, mais oui, enfin, l'idée, c'est quand même, à travers l'Observatoire, de rendre compte du fait qu'il y a une utilisation d'armes contre des citoyens, et que oui, c'est des armes de guerre, quoi. Et après, bon, je peux pas vraiment parler au nom de l'Observatoire, parce que c'est pas une réflexion qu'on a avancée collectivement, mais oui, en effet, c'est quand même de dénoncer le fait qu'il y a quand même un usage disproportionné et injustifié de la violence, et l'usage de cette violence se fait à travers les armes, en effet, hein. Nous, à Lille, par exemple, il y a pas très longtemps, il y a une manifestation où il y a eu plus de 5 tirs de... Enfin, 5 séquences de 10 tirs de lacrymo en à peine 10 minutes, quoi. Enfin, c'est énorme, et la lacrymo, c'est pas n'importe quoi. J'en parlais avec des street medics, et ils nous disaient, mais là, pour l'instant, il se passe rien, mais dans 5, 10, 15 ans, qu'est-ce qui nous dit qu'on ne va pas se retrouver avec des manifestants, avec des cancers du poumon, avec des problèmes respiratoires à cause de ces lacrymos? On n'est même pas encore conscient de l'impact des lacrymos sur le corps humain. Donc, oui, bien sûr, l'idée, c'est quand même d'avoir une réflexion interne aussi sur les armes employées, quoi, c'est sûr.
Dernière question, lors du débat dont tu parlais là, le 6 février à Lille, il y a Yann B, me semble-t-il, du collectif des Armonlais, qui a évoqué la réflexion sur est-ce qu'on peut pas se passer de la police. Comment tu vois cette réflexion plus générale sur le rôle de la police dans la société?
Alors là, je vais vraiment parler en mon nom, hein. Je ne parle pas du tout au nom de l'Observatoire, hein. C'est vraiment ma réflexion personnelle, je tiens à le dire, parce que je n'ai pas envie d'avancer trop d'éléments qui ne viendraient pas de l'Observatoire, mais je pense que c'est une réflexion qui est intéressante. Je pense que, en tout cas, la police qu'on a actuellement a prouvé ses failles à plusieurs reprises. Pour moi, on est face à un état policier, vraiment, hein, un état policier qui ne cherche pas à comprendre les revendications sociales, etc., mais à les mater. Donc, oui, en effet, moi, de ce que je vois, quand je croise un quart de police, j'ai plus peur qu'autre chose. Donc, en effet, moi, repenser la police, repenser l'institution policière, pour moi, c'est primordial. Enfin, là, on peut pas continuer comme ça. Après, vivre sans police, je pense que pourquoi pas. Enfin, c'est quelque chose qui peut se réfléchir en commun. Après, je pense qu'il y a aussi une réflexion après plus large, hein, sur nos sociétés, sur nos modes d'organisation, mais je pense que c'est en effet quelque chose qui pourrait être intéressant à réfléchir collectivement. Enfin, voilà.
Hélène, membre de ce collectif, l'Observatoire Lillois des pratiques policières, interviewée par téléphone jeudi 13 février. Si vous souhaitez donner un coup de main sur le long terme ou de façon plus ponctuelle, être formé aux techniques d'observation, vous pouvez contacter ce collectif. Je vous donne l'adresse mail, c'est olpp@riseup.net. Il existe aussi une page Facebook, Observatoire Lillois des pratiques policières.
La meilleure des polices ne porte pas l'uniforme. Double, triple, trouble, incolore, informe. Elle s'immisce en tout, se mêle de tout, se ressent partout, centrale, sans bruit, sans rien d'écrit, sans aucun parfum, de la moindre gâchette, parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage. Sage, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements. Elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de te procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices, c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs. Et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés, c'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. C'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois. Parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement, sans jamais oser montrer les crocs, quand bien même on te propose de t'enculer.
Tu pectes pour garder le goût.
La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, ou de les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau.